Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour le premier numéro de Mélomanie en 2023. Et j'en profite pour vous souhaiter bien sûr une très bonne année à tous, beaucoup de bonheur et de bonheurs musicaux en particulier. Nous avons été plutôt gâtés en 2022 et il y a tout lieu de croire que ce devrait être encore le cas en 2023. Le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale reprend donc du service en ce début d'année, quelques jours à peine après les concerts du Nouvel An donnés par l'Orchestre National du Capitole à la Lograin. Le redémarrage après la période des fêtes va se faire doucement puisqu'il va falloir attendre le début de la semaine prochaine pour retourner dans les salles de concert. La première à accueillir un événement en 2023 est l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines où se tient le troisième concert de la saison des Clés de Saint-Pierre lundi 9 janvier. Deux des musiciens qui s'y produisent sont les invités d'honneur de cette émission, Bruno Dubarry et David Minetti, respectivement altiste solo et clarinettiste solo de l'Orchestre National du Capitole. Ils vont nous présenter le programme de leur concert en seconde partie de ce numéro. À leur côté, et ils n'auraient raté pour rien au monde ce premier Mélomanie 2023, mon fidèle complice Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Sans plus attendre, nous allons revenir sur l'actualité musicale récente. C'est parti pour notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bienvenue et bonne année aussi à vous trois. Merci d'être présents au rendez-vous.
Bonne année à tous, aux auditeurs et à nos invités d'aujourd'hui.
Bonjour, merci de votre accueil et bonne année à tout le monde.
Alors vous avez entendu l'accent italien de David Minetti, c'est formidable. Bruno Dubarry.
Bonjour à tous, meilleurs vœux pour cette année avec beaucoup de musique.
Eh bien merci à vous trois. On va commencer donc en revenant le concert que j'évoquais il y a quelques instants, et même plutôt les concerts du Nouvel An de l'Orchestre du Capitole, donnés à la Lograin, comme le veut la tradition, les 30 et 31 décembre, et bien sûr le 1er janvier. C'était un programme Broadway, très américain donc, dirigé par le chef et pianiste Leo Kwokman, originaire lui de Macao, et que l'on commence à bien connaître à Toulouse, où il s'est déjà produit à plusieurs reprises à la tête de l'Orchestre du Capitole. Serge va nous rappeler quelles étaient les œuvres et les compositeurs au programme. Il nous fera part de ses impressions. On n'aura pas celles de Bruno Dubarry et David Minetti parce qu'ils avaient été dispensés, eux. Donc ils ne pourront pas nous dire comment ils ont vécu ce concert de l'intérieur. On vous écoute, Serge.
Oui, alors je voudrais préciser, Leo Kwokman donc venait pour la troisième fois. Et donc je me souviens que la première fois qu'il est venu, il était à la fois pianiste et chef d'orchestre. Déjà, il l'a été pour ce concert du Nouvel An également. Et il avait joué la partie de piano du triple concerto de Beethoven tout en dirigeant l'œuvre, ce qui était quand même une belle performance. Eh bien, il a renouvelé ici. Et puis, je voudrais quand même faire une remarque importante. Il y a eu trois concerts du Nouvel An. Les trois concerts ont affiché complet. La Lograin était absolument pleine, au point que certains musiciens étaient déçus qu'ils n'aient pas pu inviter certains de leurs amis parce qu'il n'y avait plus de place. Donc,
J'avais annoncé les concerts, c'était bien en amont des dates en question. Oui. J'avais bien dit, surtout réservez vos places rapidement parce qu'on sait, c'est le cas depuis plusieurs années. Il y a trois concerts, mais c'est plein à chaque fois et on refuse du monde.
Oui, mais en particulier, particulièrement à Toulouse, j'ai l'impression que les manifestations musicales sont extrêmement suivies. Oui. D'abord parce que la vie musicale toulousaine est très riche.
Et de grande qualité.
Soyons un peu chauvins, mais même sans être chauvins, c'est la vérité. Et donc, il y a vraiment du monde.
Oui, parce que ce n'est pas le cas partout en France.
Non, absolument. Alors donc, le programme de ces concerts, eh bien, il additionnait deux noms bien connus, Leonard Bernstein et George Gershwin. Et c'est pour ça que je me suis permis de dire qu'il s'agissait d'un Broadway sur Garonne à Toulouse. Donc, voilà. Alors, on a eu trois œuvres, enfin quatre œuvres même, importantes, avec tout d'abord l'ouverture de Candide de Leonard Bernstein, qu'on avait vu à Toulouse d'ailleurs il y a quelques années.
La version intégrale.
La version intégrale. Alors, dès le départ, ça pétille, c'est une ouverture pleine de vitalité, et le chef n'en manque pas de vitalité. Vraiment, il a suscité un peu la verve de tous les musiciens et de tout l'orchestre. Une direction à la fois précise, dynamique, pleine d'énergie, et donc on a eu cette ouverture de Candide, et ensuite trois épisodes de danse de l'autre comédie musicale, On the Town, toujours du même Bernstein. Alors là, on a vérifié que avec ce On the Turn, eh bien, l'œuvre titillait un peu la fibre jazzistique des musiciens. Et puisqu'il y a vraiment dans ces danses des passages de jazz complètement. Et là, on a entendu en particulier un solo de trompette et un solo de saxo magnifique, qui a été d'ailleurs acclamé spontanément par le public. Donc, c'est vraiment intéressant. Ensuite, donc, eh bien, on a vu le piano entrer en scène, et donc l'œuvre suivante, c'était quand même un tube universel, signé George Gershwin, la fameuse Rhapsody in Blue, qui initialement avait été composée pour piano et jazz band, et orchestrée en 1924 par Ferdi Groffé. Donc l'orchestration complète, elle n'est pas de Gershwin, elle a été modifiée par Ferdi Groffé. Et là, eh bien, on a vu Leo Kockman à la fois... Je ne dirais pas la baguette, puisqu'il n'avait plus de baguette, il n'avait même plus de partition. Il a dirigé, comme ça, du clavier, avec une précision impressionnante, parce que c'est quand même une œuvre un peu complexe, et vraiment, il n'y avait pas le plus petit décalage, la plus petite imperfection, c'était vraiment parfait. Avec ce début à la clarinette, en glissando, qui est bon, tellement connu, universel, et là, qui était joué par Florian Tardy, donc du pupitre de clarinette de l'orchestre. Et on a admiré en particulier pendant toute l'œuvre l'équilibre de la balance sonore. Parce qu'il ne faut pas non plus noyer le piano dans les toutis de l'orchestre. Ce n'était pas le cas, c'était vraiment très bien. Avec ces passages un peu canailles et puis ces manifestations de vigueur que le chef suscitait pour tout l'orchestre. Alors, ce qu'on a beaucoup admiré sur le jeu pianistique du chef, ce sont les cadences. Il y a une série de cadences, mais d'une virtuosité incroyable. Hein. Et donc, il a fait ça avec à la fois poésie et énergie, je dirais. Donc, c'était vraiment très, très beau. Et enfin, la troisième œuvre, bon, alors ça, on l'a entendu quelques fois à Toulouse, oui. Ce sont les danses symphoniques de West Side Story. Bon, là, évidemment, on est dans un univers bien connu également, dans lequel les musiciens donnent d'eux-mêmes. Hein. Ils commencent par les claquements de doigts du début, hein, les petits claquements, et puis surtout dans le passage mambo, les cris mambo de tous les musiciens. Alors ça fait plaisir au public, évidemment, le public était ravi. Ils ont été très applaudis, bien sûr. Et on remarque que les musiciens ont eux-mêmes chaleureusement applaudi le chef. Donc, ils étaient très contents de la manière...
Mais il a l'air très sympathique, ce Leo Kockman.
Il est très, alors, jeune, dynamique, sympathique. Oui, oui, absolument. Donc, ça a été un très beau moment qui s'est prolongé encore par deux bis. Avec le premier bis, c'est ce qui est connu sous le nom en français de Promenade en traîneau de Leroy Anderson,
oui.
Bien connu.
Oui.
Et puis ensuite, il a dû remettre ça, un petit coup de mambo en plus. Donc, on est revenu à West Side Story. Et donc, ça a été vraiment une soirée très réjouissante.
Comme elles doivent l'être circonstances. Alors, même si Bruno Dubarry et David Minetti n'ont pas participé, mais vous avez déjà participé à des concerts Nouvel An, est-ce que c'est un moment que vous appréciez dans l'année? Est-ce que c'est un exercice auquel vous vous livrez toujours avec plaisir, quel que soit le chef, même si ça peut jouer, bien sûr?
Ah ben oui.
Oui, il s'agit toujours d'un moment festif où on retrouve le public toulousain à nombre et ça nous fait grand plaisir. Le programme en général est choisi pour l'occasion. Après, je ne vous cache pas, en tant que clarinettiste, que le fait de jouer Rhapsody in Blue le 1er janvier, ça reste quand même un défi. Et bon, je sais que ma collègue a très, très bien assuré le rôle. Et bravo à elle, parce que c'est pas évident après une soirée qui est quand même festive. Le lendemain après-midi, d'interpréter ce glissando qui est très plaisant pour le public, mais très périlleux pour le clarinettiste.
Qui porte bien son nom, parce qu'on peut, c'est une pente glissante.
Voilà. Donc bravo à elle. Mais en tout cas, c'est un plaisir de partager ces moments avec les Toulousains.
Bruno Dubarry.
Je pense que c'est un plaisir parce qu'en fait, on a un public qui peut être un petit peu différent du public strictement mélomane.
Oui,
donc ça, c'est quand même très, très intéressant. Et c'est un public qui découvre la musique classique dans une ambiance festive. Donc ça, c'est bien. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit en disant que nous étions exemptés de concert du Nouvel An.
C'est peut-être pas le bon mot.
Non. En fait, nous étions donc, nous jouions dans le ballet Don Quichotte de Mincus. Et vous parliez du public qui est très présent.
Oui.
Nous avons fait un ballet à guichet fermé aussi.
Exactement. Donc, exactement.
Oui, mais le théâtre du Capitole ne désemplit pas non plus, que ce soit pour les opéras ou les ballets. Hein.
Et d'ailleurs, je voudrais ajouter que le public de ces concerts du Nouvel An contient beaucoup d'enfants, de jeunes. des familles. Donc c'est vrai qu'il s'agit d'un autre public et qui est ravi d'assister à ces manifestations de fête.
Eh bien, pour nous remettre dans l'ambiance de ces concerts du Nouvel An, voici un extrait des danses symphoniques de la bande originale de West Side Story, composée par Leonard Bernstein et interprétée par l'Orchestre National du Capitole, dirigé ici par le chef toulousain Pierre Bleuze. Extrait des danses symphoniques tirées de la bande originale de West Side Story, une des plus célèbres compositions de Leonard Bernstein, interprétée donc par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Pierre Bleuze, une des musiques jouées lors des concerts du Nouvel An de l'Orchestre du Capitole il y a quelques jours, avec laquelle nous concluons cette courte première partie d'émission. Petite virgule musicale avant de retrouver dans quelques secondes nos trois invités, Serge Chosy et donc Bruno Dubarry et David Minetti. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Mélomanie, la suite avec Serge Chosy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et donc avec Bruno Dubarry et David Minetti, respectivement altiste solo et clarinettiste solo de l'Orchestre National du Capitole. Tous deux vont participer au troisième concert de la saison 22-23 des Clés de Saint-Pierre, lundi prochain, le 9 janvier à 20h. À Saint-Pierre-des-Cuisines. Le programme est intitulé « Du lead à Broadway », un peu comme s'il s'agissait d'un prolongement du concert du Nouvel An. Pas vraiment en fait, comme vous allez pouvoir le constater dans quelques instants. Tout d'abord, je vais vous demander, à l'un à l'autre, de nous présenter vos petits camarades de jeu, puisqu'il y a deux autres musiciens à vos côtés pour interpréter ce programme lundi prochain à Saint-Pierre-des-Cuisines.
Mais je vais commencer par Christophe Larieux, qui lui est pianiste. On a le plaisir de travailler avec lui au Théâtre du Capitole, notamment, où il est chef de chant. Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps. Personnellement, j'ai le plaisir de l'avoir dans ma classe à l'ISDAT, l'Institut supérieur des arts du design de Toulouse. Donc, il accompagne la classe de clarinette au piano. Et voilà, donc, le fait qu'on se connaisse depuis longtemps fait que l'idée de créer ce concert nous a un petit peu titillé et donc on a décidé de proposer ce programme avec Christelle Gouffet qui est une chanteuse, une mezzo-soprano. Je peux laisser peut-être Bruno
dire. C'est Bruno qui la connaît bien, alors dites-nous en plus Bruno, ne soyez pas timide.
Christelle, en fait, c'est l'intérêt des concerts de musique de chambre. Le plaisir qu'on peut avoir, c'est soit de jouer avec des gens que l'on connaît, le plaisir de se retrouver un petit peu familial, mais c'est aussi l'occasion de rencontrer des nouvelles personnes. Et en ce qui concerne Christelle Gouffet, c'est tout à fait le cas, parce que très honnêtement, je ne la connaissais pas avant, et c'est avec grand plaisir que je vais partager ce moment de musique. Donc ce qui fait que je ne connais pas très bien la carrière de Christelle, je sais qu'elle fait une carrière freelance, on va dire, c'est ça ?
Oui.
Donc elle a eu l'occasion d'avoir de nombreux rôles dans différents opéras ou autres. Mais effectivement, je suis au début de la relation...
D'une collaboration
avec Christelle.
Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est née à Montauban et qu'elle a été formée au Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Donc c'est vraiment un pur produit de la formation musicale de notre région, mezzo-soprano. Alors je crois tout de même que celui qui la connaît le mieux de vous trois avec Christophe Larieux, c'est Christophe Larieux, justement, parce que lui, il a fait des concerts avec
elle. D'ailleurs, la conception du programme a été faite autour de la voix de Christelle. Donc la partie instrumentale, nous l'avons choisie ensemble avec Bruno et Christophe. Et la partie chant a été choisie par rapport justement à la tessiture et aux qualités vocales de Christelle.
De mezzo-soprano, donc de Christelle Gouffel. On va voir aussi que la clarinette est bien mise en valeur. Vous ne vous êtes pas oublié, David. Mais c'est un programme qui est vraiment fidèle à l'esprit des Clés de Saint-Pierre parce qu'il est très original avec des œuvres et des compositeurs qu'on entend très rarement en concert et dont la plupart sont même totalement inconnus du grand public, à l'exception bien sûr de Johannes Brahms. Qui a eu l'idée de ce programme? Je crois que c'est Christophe Larieux quand même qui a été vraiment très moteur là-dessus. Et vous-même?
Disons David. Oui, à la base, c'est avec Christophe qu'on a conçu ce programme. Bruno et moi, bon, on travaille ensemble à l'orchestre, on est de bons amis, mais surtout, je pense qu'on a exploré un petit peu tout le répertoire, quasiment de trio, clarinette, alto, piano. Donc voilà, la conception a été faite, en travaillant avec Christophe et en cherchant des pièces, justement, comme vous disiez, qu'ils soient un petit peu hors des sentiers battus, des pièces que le public n'a peut-être pas l'occasion de...
Ça, c'est vraiment la vocation des Clés de Saint-Pierre. Oui. À chaque concert, on entend vraiment ou des compositeurs ou des œuvres de grands compositeurs qui sont très, très rarement jouées. Ça, Serge peut en témoigner.
Ah oui, oui, tout à fait. Et puis, le grand intérêt de ces concerts, c'est d'entendre des musiciens d'orchestre faire de la musique de chambre. De manière intime entre eux, quoi, avec et puis la communion avec le public est incroyable pendant ces...
Il y a quelque chose de très familial dans les concerts des Clés de Saint-Pierre, de fraternel, on peut dire, entre les musiciens.
Exactement.
C'est l'amitié aussi.
D'une part, et entre les...
Vous ne réunissez pas par hasard en formation. Il y a forcément des atomes crochus qui ne sont pas seulement musicaux. Entre autres, bien sûr. Alors donc, j'évoquais l'esprit de Broadway, puisque c'est du lead à Broadway, mais c'est quand même majoritairement le lead qui est mis en valeur, le chant qui est mis en valeur. Alors, on verra à la fin, Broadway, c'est un medley de pièces de Kurt Weill qui ont été arrangées par Christophe Larieux. On en parlera dans quelques minutes. On va commencer par les autres pièces au programme. Si c'est respecté tel que c'est présenté, ça va commencer avec une œuvre de Max Bruch. Et là, je vais donner la parole à l'altiste, puisque Max Bruch est surtout célèbre pour son concerto pour violon, pas pour alto, mais pour violon tout de même, qui a été souvent joué par l'Orchestre du Capitole. Alors, qu'est-ce que c'est que ces pièces, ces 8 pièces pour clarinette, alto et piano de Max Bruch?
Mais donc, ce sont des pièces qui ont une formation bien précise, donc clarinette, alto, piano. Et elles font énormément référence au conte de fées de Robert Schumann, opus 132, qui a été composé pour la même disposition. Je ne connais pas exactement le timing entre l'œuvre de Bruch, cette œuvre de Bruch et l'œuvre de Schumann. Je suppose que Bruch, c'est après Schumann.
Alors, c'est une œuvre quand même de la fin pour Bruch, puisqu'elle date de 1911.
Voilà. Donc, c'est très nettement après.
Bien après la mort de
donc,
Schumann.
Donc, il a été très inspiré par Schumann. Et quand on joue ces pièces, enfin, moi, ça me fait énormément penser à Robert Schumann, notamment la pièce numéro 4,
oui, hein,
qui fait vraiment penser. Donc ça a vraiment un esprit romantique allemand, schumannien.
Est-ce que c'est une pièce importante pour les clarinettistes?
Oui, bien entendu. Ce sont des pièces. Pour le concert, nous allons jouer de la numéro 1 à la numéro 4.
Donc, on va jouer la moitié des...
Voilà, on va jouer la moitié des pièces. Mais c'est des pièces qui font partie de notre répertoire de musique de chambre qu'on partage avec l'alto. Et je tiens aussi à rappeler que Bruch a écrit également un concerto pour alto et clarinette avec orchestre symphonique que avec Bruno nous avons eu le plaisir de jouer à plusieurs reprises et c'est vraiment de la musique romantique je trouve moins torturée que Schumann.
Oui.
C'est plus limpide, c'est plus serein, mais ça reste de la musique qui est très très expressive et qui nous amène dans un voyage vraiment très romantique.
C'est un peu un intermédiaire entre Brahms et Schumann, je trouve, entre les deux compositeurs, parce que c'est quand même la même époque, hein, donc que Brahms.
Oui. Et d'ailleurs, c'est le violoniste qui a créé le concerto qui travaillait beaucoup avec Brahms, qui a conseillé et qui a travaillé énormément sur le concerto aussi Max Bruch.
Joachim.
Dont nous allons parler dans quelques minutes, Joachim. Alors, on va écouter un premier extrait de ce programme. C'est un peu dommage, je ne savais pas que vous alliez jouer que les quatre premières des huit pièces pour clarinette, alto et piano de Max Bruch. Et moi, j'ai choisi un extrait de la septième des huit pièces, qui est très belle aussi. C'est un allegro vivace et il est interprété par Paul Meyer à la clarinette, François-René Duchâble au piano et un Toulousain, Gérard Cosset, à l'alto. La septième des huit pièces pour clarinette, alto et piano de Max Bruch, Allegro vivace, interprété par Paul Meyer, Gérard Cosset et François-René Duchâble. Autre œuvre au programme, le cycle des six leaders pour mezzo-soprano, clarinette et piano, opus 103 de Louis Spohr. Alors Louis Spohr, je pense que personne ne le connaît parmi ceux qui nous écoutent, à part vraiment les spécialistes. Je le situe dans le temps, né en 1784, mort en 1859. Voilà un compositeur complètement oublié de nos jours, qui fut pourtant très célèbre de son vivant, puisque ses contemporains apparemment en faisaient l'égal de Haydn, Mozart et Beethoven. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Vous le connaissiez ou c'est Christophe Larieux qui vous l'a proposé?
Non, il faut dire que tous les clarinettistes connaissent Louis Spohr, parce qu'il a, comme Mozart, Weber et Brahms, il a connu un clarinettiste de son époque. Alors je m'excuse auprès de nos amis allemands pour ma prononciation, mais ce clarinettiste s'appelait Ermstedt. Donc Spohr était violoniste, lui, à la base,
oui,
compositeur.
15 concertos pour violon.
Voilà. Et il a écrit 4 concertos pour clarinette, il y a quintette, il y a des variations. Ouais. Et ce trio, il faut savoir que Spohr, contrairement à Mozart, Weber ou Brahms, ne se posait pas de questions par rapport à la difficulté d'une pièce et à l'instrument qui allait le jouer.
C'était aux musiciens de se débrouiller avec la partition.
Voilà, exactement. Donc d'ailleurs, l'histoire dit que Ermstedt se faisait un grand plaisir de travailler énormément pour arriver à jouer les pièces de Spohr telles qu'ont été écrites et sans les rendre plus faciles. Il faut savoir qu'encore de nos jours, quelqu'un qui joue un concerto de Spohr a une grosse difficulté technique. Il a poussé la clarinette vraiment dans ses
derniers retranchements.
Voilà. Et il utilise toute la tessiture, des notes qui n'ont jamais été utilisées ni avant ni après lui. Et lui, il les utilisait dans chaque concerto, notamment les suraigus. Et autre problème majeur avec Spohr, c'est les respirations. Parce qu'en étant violoniste, il écrivait des phrases comme un instrument à cordes. Et je peux vous dire que très souvent, on est devant une partition et on se demande où est-ce que je vais respirer.
Le clarinettiste est en apnée tout le long.
Voilà. Donc...
c'est un exercice de plongée.
Ouais. Donc c'est plutôt moi qui ai proposé cette pièce parce que je connaissais Lieder, je les ai déjà joués, je les aime beaucoup et je trouve que c'est une pièce qui est vraiment très très intéressante, que ce soit à interpréter, que ce soit à écouter.
Vous connaissiez Louis Spohr, Serge Ozy, notre encyclopédie
vaguement,
vivante.
Le nom, oui, j'ai dû entendre quelques œuvres, mais bon, c'est vrai qu'il n'est jamais joué. Alors, c'est important, étant donné ce que vient de nous dire David à propos des respirations, j'espère qu'il laisse respirer la chanteuse quand même.
Oui, la chanteuse, oui.
Ah bon,
c'est le clarinettiste qui a la lourde tâche.
Oui, mais c'est David qui a choisi de le jouer, donc vous savez ce que vous faites. Hein. Vous aimez vivre dangereusement, c'est ça
oui. Tout à fait.
Non, mais Louis Spohr, c'est impressionnant parce que moi, je me suis un petit peu documenté. J'ai regardé, donc, il y a 15 concertos pour violon, 4 concertos pour clarinette. Il y a 10 symphonies. Lui a réussi à écrire la 10e.
Ah, voilà, oui, la malédiction de la 9e n'a pas
marché. Il a surmonté la malédiction,
vous
voyez.
Ouf.
Et puis, donc, il y a énormément de cycles de Lieder, dont cet opus 103, qui apparemment est le recueil le plus abouti, le plus connu de ce compositeur, le plus souvent donné en concert. On va écouter le premier de ces 6 Lieder pour mezzo, clarinette et piano, opus 103 de Louis Spohr. Il est intitulé Sei still mein Herz et il est chanté par la soprano. Là, c'est pas une mezzo, je suis désolé, c'est la soprano américaine Helen Donat. Sei still, mein Herz, qu'on peut traduire par Sois tranquille, reste calme, mon cœur, chanté par la soprano américaine Helen Donat. C'est le premier des six leaders pour mezzo, clarinette et piano opus 103 de Louis Spohr, encore moins connu, sauf des spécialistes. Vous avez intégré à votre programme l'hommage à Robert Schumann du compositeur contemporain hongrois, Gyorgy Kurtág. Alors je précise, il est né en 1926, mais il est toujours vivant, hein, Gyorgy Kurtág, il a 96 ans. Vous vouliez aussi avoir un compositeur d'aujourd'hui, ou c'est parce que ça complétait bien le reste du programme? Pourquoi vous avez choisi ce compositeur et cette œuvre précisément? À cause de Schumann peut-être?
Non, je pense que c'est bien de pouvoir présenter au public des pièces qui sont vraiment, qui font pas partie du grand répertoire et qui sont d'un intérêt majeur pour nous en tant que musiciens, mais je pense aussi pour le public, pour avoir un abord avec cette pièce qui est un peu différente. Ce que nous allons faire, et là je vais laisser la parole à Bruno, nous allons présenter cette pièce lors du concert, nous allons en jouer quelques petits extraits avant de l'enchaîner, pour montrer au public, parce que c'est des pièces qui, contrairement à Spohr, Brahms, qui s'écoutent naturellement, c'est des pièces avec lesquelles il faut avoir un minimum de connaissance du pourquoi le compositeur a écrit, qu'est-ce qu'il voulait exprimer. Et donc Kurtág a écrit justement ce trio, un hommage, comme le dit le titre, à Robert Schumann et à son trio pour clarinette, alto et piano. Et donc là, je vais laisser la parole à Bruno qui va lundi prochain présenter la pièce, vous en dire un peu plus.
Voilà, c'est une suite de courtes pièces, en fait, pour clarinette, piano et alto, c'est ça?
Oui, alors la notion de courte pièce est très importante, puisqu'il y a des pièces qui sont à 20 secondes, d'autres à 40 secondes.
Et c'est les plus longues, quasiment, voilà, 40.
Il n'y a que la dernière pièce qui fait 3-4 minutes. Et en fait, c'est là que David a raison, il faut peut-être présenter, simplement pour aider le public à aller dans ce genre de musique, en fait, qui est un peu à l'opposé de notre époque. Nous sommes à l'époque de l'abondance de la musique, de l'abondance de l'image, de la parole. Et là, quelque part, le compositeur nous propose 20 secondes pour exprimer quelque chose. Donc là, en fait,
une notion de sobriété, presque.
Oui, voilà. Oui, tout à fait, c'est écologique.
Je n'osais pas le dire. Voilà.
Et donc, en fait, ça demande une écoute un peu, il y a un mot à la mode, une écoute un peu en pleine conscience. Hein, c'est d'être à la fois détendu, mais concentré pour écouter.
Et il faut l'être tout de suite. Voilà. Il faut l'être tout de suite.
Et c'est évident qu'en venant, donc, le Kurtág sera joué après le Spohr. Donc, venant du répertoire romantique, sans préparation, je pense que c'est difficile en 20 secondes de
zapper, en quelque sorte.
Mettre, voilà. Ouais. Donc, il faut donner un petit contexte pour aider le public à rentrer dedans. Et je pense que si le public rentre un peu dedans, il peut tout à fait y trouver des satisfactions.
Oui, mais il y a eu quelques œuvres de Kurtág qui ont été données à Toulouse. Hein. Alors, j'ai plus en tête les circonstances et
des œuvres plutôt symphoniques ou de musique de chambre?
Non, de musique de chambre aussi. Bah, c'est un grand compositeur, hein, vraiment un compositeur hongrois, donc dans la lignée des Bartók, d'Ornani, etc. Hein. C'est bien d'avoir du Kurtág, vraiment.
Oui, on en parlait avant l'émission, en posant la question, est-ce qu'il est toujours vivant?
Et oui.
Ça fait partie de ces artistes dont on découvre parfois qu'ils étaient encore vivants le jour où on apprend leur mort.
Oui,
non, il a 96 ans, il est bien toujours de ce monde.
On peut peut-être juste dire qu'en plus, cette œuvre est totalement en cohérence avec le reste du programme.
Et oui.
Donc c'est un hommage à Robert Schumann.
Oui, dont l'ombre plane un peu sur
tout le programme. Totalement, puisqu'en fait, alors, ce qui est très fascinant, c'est le choix des titres de Kurtág, qui sont tous très énigmatiques.
Ah oui.
Et chaque titre fait référence obligatoirement à des œuvres de Schumann, mais aussi au célèbre personnage imaginaire que Schumann a créé, Eusebius, Florestan.
Oui, absolument.
Voilà, donc il y a quand même beaucoup de relations avec le programme.
Voici donc ce petit extrait de l'hommage à Robert Schumann composé par Gyorgy Kurtág. Il s'agit du Presto. Thank you. le presto de l'hommage à Robert Schumann composé par Georgi Courtag. Et donc Bruno Dubarry, vous vouliez peut-être préciser quelque chose. Alors la référence à Schumann ici,
oui,
c'est
aux
scènes de la forêt, c'est ça?
Voilà, c'est ça. En fait, le titre là de cette pièce, c'est Dans la nuit, qui fait référence à une pièce de piano qui s'appelle Dans la nuit aussi, dans le cadre de des légendes, c'est ça, de la forêt.
C'est les Waldszenen, les scènes de la forêt.
Scènes de la forêt.
Il y a les Kinderszenen, les scènes de l'enfant, mais là c'est les Waldszenen, donc les scènes de la forêt.
Et ce que vous avez entendu, notamment au piano, là, tous ces doubles croches sont tout à fait en relation avec l'œuvre de Schumann.
On va revenir au Lied, puisque vous avez également retenu les Zwei Gesänge, opus 91 de Johannes Brahms. Alors là, on revient à un compositeur très connu cette fois-ci, qui fut très ami avec Robert Schumann, que nous évoquions à l'instant. Il s'agit de deux chansons pour mezzo-soprano, alto et piano, composées par le grand compositeur allemand, composées pour quelqu'un que nous évoquions il y a quelques instants. C'était Joseph Joachim, le grand violoniste de l'époque romantique.
Deux œuvres formidables, vraiment d'une profondeur, d'une beauté mélodique à la fois, harmonique, enfin c'est sublime, hein, c'est deux pièces complètement sublimes, et donc j'aimerais avoir l'avis, l'opinion
des musiciens
de Bruno, oui.
Puisque là, la clarinette n'est pas concernée. Hein. C'est vraiment l'alto et la voix qui sont en vedette avec le piano, évidemment.
Qui chante un duo. C'est en quelque sorte un duo entre la voix et l'alto. Hein. L'alto qui chante tout autant que la voix.
Tout à fait. Alors effectivement, c'est vraiment deux œuvres assez exceptionnelles. Ce que je peux dire en tant qu'interprète, c'est des œuvres difficiles à jouer, pas difficiles techniquement, mais musicalement, on sent que c'est tellement beau, tellement exceptionnel, qu'en fait, on a une sorte de pression, hein, de pression pour essayer de rendre cette musique vraiment bien. Notamment la première, par exemple, commence par une très longue phrase d'alto, et ça, c'est toujours une difficulté chez Brahms, pour le musicien. Brahms est très très fort pour faire des très longues mélodies. Mais en tant qu'interprète, gérer et tenir une longue mélodie, c'est quelque chose de difficile, de lui donner du sens, de la cohésion, du relief.
Et de la nuance.
Voilà, c'est quelque chose qui est assez difficile. Comme la deuxième pièce, donc, qui est une sorte de prière, et donc le thème que l'alto expose est un thème extrêmement simple, qui est issu, je crois, de prière médiévale, d'un thème très ancien, et d'une simplicité, qui donne un peu le trac, en fait, une simplicité qui met la pression, en fait, à l'interprète. Voilà, je vous fais part de mes sensations.
Voilà, donc, composé par Johannes Brahms pour ses amis Joachim et sa femme, Amalie, voilà, donc, il est très proche du couple. Voici la première de ces deux chansons, on en parlait il y a quelques instants avec Bruno Dubarry, Gestillte Sehnsucht, chantée ici par Jeanette Baker.
Thank you.
Gestillte Sehnsucht, la première des Zwei Gesänge de Johannes Brahms, chantée par Dame Janet Baker. Et votre programme du Lied à Bronnois se termine donc par un medley Kurzweil dans des arrangements de Christophe Larieux. Ainsi, la boucle est bouclée pour ce très joli et rare voyage musical avec nos auditeurs. Le rendez-vous est donc fixé lundi 9 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines en compagnie des musiciens des Clés de Saint-Pierre. Alors, ce medley de Kurzweil, qu'est-ce qu'on va y entendre? Il y aura des extraits de l'opéra de Katsu.
Alors, c'est dommage que Christophe Larieux ne puisse être avec nous. Donc, dans le medley qu'il nous a concocté, il retrace un petit peu chronologiquement la vie de Kurzweil. Donc, il va y avoir une période berlinoise
oui.
Une période française, notamment avec la complainte de la Seine sur un texte magnifique de Maurice Magre, et après une partie États-Unis, USA, pour terminer ce medley.
Et on finit bien à Broadway. Hein.
On termine bien à Broadway.
Alors je crois que le programme n'est pas complètement défini encore à l'heure où nous parlons, où vous savez vraiment tout ce qu'il va y avoir, où Christophe Larieux vous prépare encore quelques surprises.
Non, je pense que dans la tête de Christophe, tout est clair.
Après,
il faut coucher tout cela sur le papier. Donc, ça prend un peu plus de temps.
Donc, il y aura même une surprise pour vous d'ici le 9 janvier. Voilà, je rappelle donc la date, 9 janvier à 20h lundi prochain à Saint-Pierre-des-Cuisines pour ce très joli programme du Lied à Broadway des Clés de Saint-Pierre. Avant de terminer cette émission, deux autres concerts à vous annoncer. Le lendemain du concert des Clés et au même endroit à Saint-Pierre-des-Cuisines et toujours à 20h, il va y avoir le troisième rendez-vous de la saison 22-23 des Arts Renaissants. On va y retrouver un des enfants du pays qui fait une carrière internationale depuis quelques années, le guitariste Thibaut Garcia, mardi 10 janvier. À 20h également, donc, il est associé à l'accordéoniste Félicien Bru pour un programme intitulé « Vol de nuit, Serge Chosy ».
Oui, alors un programme aussi très original et qui est encore un voyage de nouveau. Donc un voyage qui commence par une pièce de Boccherini, donc à la fois Italie-Espagne, puisque c'est le plus italien des Espagnols.
Il a beaucoup composé à Madrid, hein, il a vécu à la cour royale. Hein,
donc. D'ailleurs, la première pièce qui sera jouée s'appelle « Introduction et Fandango », et puis avec du Ravel, avec des transcriptions évidemment.
Mais du Ravel espagnol, puisque c'est Alborada del Gracioso.
Exactement. Donc, il ne s'agit là que de transcriptions, évidemment, pour guitare et accordéon.
Oui, il n'y a aucune œuvre originale pour
ça
guitare et accordéon.
Pas si courant, hein, l'association de ces deux instruments. Mais ces deux musiciens se connaissent bien.
Ils sont très amis.
Ils jouent très souvent ensemble.
Oui, bien sûr.
Et donc, ce sont deux grands musiciens. Il faut préciser que Félicien Brut, donc, est un accordéoniste classique. Hein.
Attention, parce qu'il vient
a fait ses études.
Oui, il vient du Musette. Il est passé par la musique traditionnelle. Il est passé par le Musette, c'est la musique dans laquelle il a grandi. Et puis, petit à petit, il s'est dirigé vers l'enseignement. Il a enseigné au conservatoire, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était à Libourne à l'époque. Il a enseigné au conservatoire rayonnement départemental de Châteauroux, chez moi, dans le Berry. Et voilà, et depuis, c'est assez récent, depuis quelques années, sa carrière est partie en flèche. Et c'est l'accordéoniste avec qui tout le monde veut jouer aujourd'hui.
Mais oui, exactement. Il sait s'adapter à tous les styles.
Ouais.
C'est vraiment...
Il a un duo avec Lucien Roland d'Avary aussi, trompette-accordéon. Multiplier les exemples.
Oui, donc il y a toute une série d'œuvres. El Corazón al Sur de Blasquez, puis du Piazzolla, évidemment.
Inévitable.
Évidemment. Et puis alors, un autre medley, on pense au medley qui sera donné la veille, donc. Et là, c'est un medley de valse, alors signé de Maurice Jaubert, Corti, Joprivat même,
Georges Van Paris,
Cabral.
Là, c'est justement, je parlais, c'est l'univers dans lequel a grandi Félicien Brut, c'est l'univers du valse-musette. Hein,
exactement. Voilà. Et donc, ça s'achèvera au Brésil avec trois compositeurs brésiliens, Radames Nathalie, Nazareth et Gonzaga. Et ce sont des extraits de la suite qui s'appelle Retratos, qui veut dire portrait. Donc c'est une suite de portraits et ces trois musiciens se sont associés pour composer cette suite.
Oui, il y aura du solo de guitare aussi, hein, puisque Thibaut Garcia va jouer une pièce de Sainz de la Massa. Bon, donc on va voyager, et le titre, c'est pas par hasard, Vol de nuit, en référence au roman de Saint-Exupéry. C'est un peu l'aventure de l'aéropostale.
Exactement.
La France, l'Espagne, et puis l'Amérique du Sud.
Oui.
Termine ce long voyage magnifique. J'ai eu l'occasion, moi, d'écouter ce programme. C'était dans les jardins du château de la Traîne, à la cave dans l'Aude, dans le cadre du festival de Rocamadour, il y a deux ans, c'était l'été 2021. Et pour vous faire entendre le duo Thibaut Garcia-Félicien Bru, voici un aperçu de ce programme Vol de nuit, Zita, un extrait de la suite Trollenade d'Astor Piazzolla. Zita, un extrait de la suite Roleanade d'Astor Piazzolla, interprété par Thibaut Garcia et Félicien Bruce. C'est donc une des pièces au programme de Vol de Nuit, le concert qu'il donne mardi 10 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, lors du troisième rendez-vous de la saison des Arts Renaissants. Et puis, dernier concert à noter sur vos agendas la semaine prochaine, il est donné deux fois en fait à l'escale de Tournefeuille, les mardis 10 et mercredi 11 janvier à 20h30. C'est celui de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Il est sous-titré du baroque à la pop, et c'est la musique anglaise qui est à l'honneur, Serge.
Oui, en effet, et ça commence par une œuvre d'Henry Purcell, une chaconne, puis du Handel, puis du Edward Elgar, le fameux salut d'amour, qu'on entend souvent comme bis d'ailleurs.
Oui, hein. Oui, oui.
Et puis la Simple Symphony de Benjamin Britten. Alors ça, j'ai un souvenir là, le créateur de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, Louis Auriacombe, que j'ai connu donc, comme bis, il donnait souvent le mouvement pizzicato de cette Simple Symphony. C'était l'un de ses bis favoris, fétiche en quelque sorte. Donc là, il y aura apparemment l'intégrale de la symphonie. Et puis ça finira par du Queen et du Beatles. Donc
voilà encore un voyage.
Un voyage à travers le temps, l'espace.
À travers les âges, oui.
Oui, très bien, très bien.
Voilà, alors vous parliez de Louis Auriacombe. Nous commémorons, si je ne me trompe pas, cette année, en 2023, le 40e anniversaire de la mort de Louis Auriacombe,
oui.
Qui est mort en 1983, le fondateur et donc directeur à l'époque de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Et pour avoir un aperçu de ce concert de musique anglaise à travers les âges, comme je le disais, voici un extrait de la Simple Symphony de Benjamin Britten, interprété par l'Orchestre de Chambre de Toulouse. La Simple Symphony de Benjamin Britten, interprétée par l'Orchestre de Chambre de Toulouse, qui est donc en concert les 10 et 11 janvier à l'escale de Tournefeuille, puis les 16 et 17 à Saint-Pierre-des-Cuisines. Ces quatre concerts commencent tous à 20h30. Le programme est intitulé « Du baroque à la pop ». Les places sont à réserver et acheter en ligne sur le site www.orchestredechambredetoulouse.fr. C'est la fin de ce 213e numéro de Mélomanie. Un grand merci à Serge Chosy de l'avoir co-animé avec moi, ainsi qu'à Bruno Dubarry et David Minetti d'en avoir été les invités d'honneur et de nous avoir présenté le prochain concert des Clés de Saint-Pierre, lundi 9 janvier à 20h à Saint-Pierre-des-Cuisines, la mezzo-soprano Christelle Gouffet, le pianiste Christophe Larieux, Bruno Dubarry et David Vignetti vont y interpréter leur programme du Lied à Broadway. Les réservations et la billetterie en ligne sont disponibles à l'adresse www.lesclésdesaintpierre.org. Je rappelle enfin que le troisième concert de la saison des Arts Renaissants a lieu lui aussi à Saint-Pierre-des-Cuisines le lendemain, mardi 10 janvier à 20h. Le duo formé par le guitariste Thibaut Garcia et l'accordéoniste Félicien Bru s'y produit avec son très joli programme Vol de nuit, une soirée à ne pas rater pour laquelle vous pouvez réserver et acheter d'ores et déjà vos places en ligne sur le site www.art-renaissant.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci de nous être toujours fidèles en 2023 comme en 2022. Je vous souhaite de nouveau une très bonne année et une excellente semaine musicale.